Radio Prague, les informations. Bonjour, l'ambassade tchèque en Syrie va assurer les services consulaires pour les États-Unis. Václav Klaus a signé la loi sur la tenue pour la première fois de l'élection présidentielle au suffrage universel. Puis enfin en sport aux Jeux Olympiques de Londres, le kayakiste Vavřinec Radilek a offert sa première médaille à la République tchèque. Comme annoncé en titre, l'ambassade de République tchèque en Syrie va assurer les services consulaires pour les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères ce mercredi. Les Américains ont fermé leur mission diplomatique en Syrie en raison des violences dès le mois de février. Depuis, c'est la Pologne qui assurait ses services consulaires, mais Varsovie, elle aussi, a fermé son ambassade vendredi dernier en raison de l'aggravation dramatique de la situation, selon le ministre polonais des Affaires étrangères. La République tchèque, elle, contrairement à la plupart des pays occidentaux, a choisi de ne pas rappeler ses diplomates en poste à Damas et de laisser ouverte sa mission après la Slovaquie. Les États-Unis sont le deuxième pays à se servir de cette présence tchèque en Syrie. Le président de la République, Václav Klaus, a signé ce mercredi la loi sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Début 2013, les électeurs voteront donc à l'occasion d'un scrutin à deux tours pour choisir leur prochain président. Le premier tour devrait se tenir vers la mi-janvier. Selon cette loi, votée préalablement au Parlement, chaque candidat doit recevoir le soutien de 20 députés ou 10 sénateurs ou encore recueillir les signatures de 50 000 citoyens. Par ailleurs, leurs frais de campagne ne doivent pas dépasser les 50 millions de couronnes, soit environ 2 millions d'euros. Comme il l'avait annoncé en juillet, le ministère tchèque de l'Agriculture a bien déposé en début de semaine une plainte contre X, et ce auprès du ministère public supérieur de Prague, dans l'affaire de la découverte de centaines de tonnes de produits alimentaires en provenance de Pologne, contenant du sel industriel, une pratique illicite. L'information a été confirmée ce mercredi par l'attaché de presse du ministère. Celui-ci espère ainsi apprendre les noms des produits dangereux qui auraient pu être proposés à la vente dans les magasins tchèques. Rappelons qu'en mai dernier, la Pologne avait communiqué après plusieurs demandes répétées de Prague des informations sur les produits problématiques qui auraient pu être introduits sur le marché tchèque. Selon le ministre, ces informations étaient toutefois insuffisantes. La République tchèque applique actuellement un embargo sur les importations de sel en provenance de Pologne par précaution. Économie, le montant du déficit du budget de l'État s'est élevé à 51 milliards 700 millions de couronnes, soit 2 milliards 100 millions d'euros à la fin du mois de juillet, soit 20 milliards de couronnes de moins qu'en juin et près de 10 milliards de moins qu'en 2011 à la même époque. Malgré l'augmentation des taux en début d'année, les recettes de TVA n'ont toutefois augmenté que de 0,1% par rapport à l'année dernière, alors que l'État prévoyait une hausse de 15,5%. Cette tendance s'explique par une baisse de la consommation. Les chiffres ont été communiqués par le ministère des Finances ce mercredi. Rappelons que pour cette année, le gouvernement prévoit un déficit du budget d'un montant total de 105 milliards de couronnes, soit 4 milliards 200 millions d'euros. Le fondateur de la recherche nucléaire en République tchèque, Česmír Šimaně, est décédé la semaine dernière. Il était âgé de 93 ans. L'information n'a toutefois été communiquée que ce mercredi sur le site internet de l'Académie des sciences. Entre 1947 et 1949, Česmír Šimaně avait passé un séjour d'études à Paris auprès du professeur Frédéric Joliot-Curie, célèbre physicien et chimiste français, prix Nobel avec son épouse Irène en 1935. Entre-temps, en 1948, Česmír Šimaně était devenu le premier employé de l'Institut pour la physique atomique, et avait fondé le laboratoire de physique atomique à Prague. On passe au sport. Le kayakiste Vavřinec Radilek a offert ce mercredi sa première médaille à la République tchèque aux Jeux Olympiques de Londres. Il s'est classé deuxième de la finale du K1, remportée par l'Italien Daniele Molmenti. Celui-ci a devancé de 1 seconde et 35 centièmes le Tchèque Vavřinec Radilek, donc vice-champion du monde en 2010. On termine avec un mot de météo. Le soleil reste de mise sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Gustaves. Dans l'après-midi et la soirée, le ciel se couvrira cependant essentiellement en Bohême, c'est-à-dire dans la moitié ouest du pays, et de nouveaux violents orages sont attendus. Les températures varient quant à elles entre 28 et 32 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie, et plus précisément en la compagnie de Václav Richter pour la suite de notre programme. faits et événements en République tchèque.
Polémique sur les produits de boulangerie surgelés et pré-cuits. Exposition Inondation 2002 destinée à la commémoration des sinistres crus de 2002 en République tchèque. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à la rubrique historique dans le cadre de laquelle Jarka Gisublova vous parlera du retour prévu de la colonne mariale baroque sur la place de la vieille ville de Prague. Merci de rester avec nous. À partir du 1er août, les commerçants en République tchèque qui vendent des produits de boulangerie sont obligés d'indiquer s'il s'agit des produits fabriqués par la méthode traditionnelle ou si les pains, les croissants et les brioches de leurs étalages ont été d'abord surgelés ou pré-cuits. Selon le ministère de l'Agriculture qui a adopté un règlement pour mettre en place cette mesure, les qualités nutritives des produits fabriqués par ces nouvelles méthodes ne sont pas pires que celles de la boulangerie classique, mais les produits ayant été surgelés et pré-cuits se dégradent plus rapidement. Le vice-ministre de l'Agriculture, Martin Hlaváček, explique pourquoi le ministère a adopté une telle mesure.
Nous avons suivi surtout deux objectifs. Premièrement, nous avons voulu mieux informer le consommateur sur le caractère du produit et notamment sur sa fraîcheur, car nous constatons que c'est une information de plus en plus demandée. Notre deuxième objectif a été d'informer le consommateur si le produit qu'il désire acheter a été surgelé ou fabriqué à partir d'un semi-produit surgelé.
Le nouveau règlement est fermement critiqué par l'Union du commerce et du tourisme, qui reproche au ministère que sa décision ne repose pas sur une analyse sérieuse des différences entre les produits pré-cuits et frais. Il souligne que la qualité de ces denrées dépend surtout d'autres paramètres, notamment du temps de fermentation et de cuisson, et aussi de la composition du produit. Par contre, selon Jiří Bláha, copropriétaire d'une société de boulangerie tchèque, la différence entre la boulangerie traditionnelle et les techniques du pré-cuit cuit frais et surgelé est importante.
Vous pouvez le tester vous-même. Achetez un petit pain que nous avons cuit dans notre magasin et qui n'a pas été pré-cuit et comparez-le avec un semi-produit surgelé cuit dans un supermarché. Testez pendant combien de temps ces deux produits resteront frais. Le petit pain du supermarché commence à se dégrader à peu près au bout de 3 heures, tandis que notre produit commence à avoir au bout de 3 heures un goût meilleur.
De même, Jiří Příhoda de l'École supérieure de chimie et de technologie confirme que les produits pré-cuits et surgelés se dégradent plus rapidement que ceux qui sont cuits par la méthode traditionnelle.
Il existe des dizaines de travaux scientifiques qui ont pour objectif de déterminer les causes de cette dégradation rapide. C'est surtout le problème des féculents qui sont responsables de la souplesse des produits boulangers et qui changent de structure. On peut éviter ce processus en ajoutant dans la pâte d'autres ingrédients.
Et c'est aussi un des arguments des adversaires des techniques du pré-cuit qui souligne que la fraîcheur des produits fabriqués par cette méthode est artificielle et qu'elle n'est obtenue que par des enzymes, des émulgateurs, des stabilisateurs et d'autres additifs chimiques. Selon les statistiques, les produits de boulangerie pré-cuits et surgelés représentent quelque 20% du marché tchèque. Cette méthode a apporté au super hypermarché tchèque un avantage essentiel. Ils peuvent importer les produits préfabriqués industriellement à l'étranger, notamment en Pologne et en France. Ils affirment cependant ne profiter que partiellement de cette possibilité, car actuellement 75% des produits préfabriqués leur sont fournis par des sociétés tchèques. L'exposition Inondation 2002, destinée à la commémoration des sinistres crus de 2002 en République tchèque, a débuté le 16 juillet dernier dans la salle d'exposition au rez-de-chaussée de la Bibliothèque nationale du Clementinum. Photos, articles de presse, témoignages ont été rassemblés pour retracer l'histoire de la Bibliothèque nationale et des ouvrages qu'elle abrite au cours de cette dernière décennie. Élise Martinelli.
Il y a 10 ans, en août 2002, des puissantes inondations submergeaient la République tchèque, laissant derrière elle de lourds dégâts. Plus d'un tiers du territoire avait été inondé par les crues, causant la mort de 17 personnes. Ces inondations, considérées comme la pire catastrophe naturelle jamais connue par les habitants, avaient tout particulièrement touché la ville de Prague. Outre des pertes humaines tragiques, le domaine économique avait été fortement touché et l'eau n'avait pas non plus épargné les trésors de la culture tchèque. Près de 40 bibliothèques avaient été inondées, des centaines de milliers de volumes, documents d'archives, actes judiciaires, livres et autres ouvrages précieux avaient été recouverts par les eaux, provoquant ainsi une perte énorme au sein des richesses livresques de la capitale tchèque. La Bibliothèque nationale avait été relativement épargnée puisque seuls les ouvrages se trouvant au sous-sol avaient été recouverts d'eau. Jerzy Polichanski, directeur de l'administration et de la protection de la Bibliothèque nationale, livre ses souvenirs de l'inondation.
Ces souvenirs sont divers. Il y a d'abord, bien entendu, ceux de l'immensité des dégâts, de la catastrophe qui nous a frappés. Les souvenirs aussi de notre impuissance face à la crue, face à ces eaux qui sont capables de complètement détruire des livres. Ce sont des images à jamais gravées dans nos mémoires. D'un autre côté, il y a aussi les souvenirs positifs, ceux d'une incroyable solidarité entre les gens qui proposaient leur aide. C'est une expérience formidable qui, malheureusement, après les inondations, s'est vite évanouie et qui nous manque encore aujourd'hui.
Ainsi donc, grâce à la mobilisation des bibliothèques, l'aide de nombreux volontaires, les dons et les moyens financiers mis à disposition par l'État, une partie des écrits à valeur culturelle et historique ont pu être sauvés. Cette exposition immerge le visiteur au cœur de la catastrophe. Elle explique aussi quelles ont été les techniques utilisées pour mener à bien le projet de restauration des livres. Jerzy Polichanski détaille les enjeux de ce processus.
Sur 800 000 ouvrages dans toute la République tchèque, et nous avons réussi à en déposer 140 000 dans des chambres de congélation où les livres ont pu attendre avant d'être séchés et restaurés. Plusieurs institutions ont participé au sauvetage. Notre bibliothèque a séché des ouvrages dans trois endroits différents qui ont été construits à cet effet. Je pense ainsi que nous avons fait sécher 70 000 ouvrages pour 10 bibliothèques.
La congélation, le séchage et la restauration des ouvrages constituent un vaste travail qui n'est pas près d'être terminé. De nombreux ouvrages attendent aujourd'hui encore d'être remis en état. L'exposition est ouverte toute la semaine de 9h à 19h jusqu'au 31 août. Elle sera cependant fermée en raison de congés du 21 juillet au 5 août. Le prix d'entrée s'élève à 5 couronnes.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Une colonne mariale haute de 15 mètres qui ornait du milieu du XVIIe siècle à 1918 la place de la vieille ville de Prague devrait de nouveau dominer cette place historique. La mairie de Prague, après plusieurs années d'opposition, vient de donner son feu vert à l'installation de la copie de la colonne baroque sur le lieu où elle se trouvait à l'origine, Jarka Gisiblova.
Chapitre de l'histoire.
La colonne mariale a été érigée sur la place de la vieille ville de Prague en 1652 en mémoire de la défense du quartier contre les troupes suédoises. Une légion mariale formée de bourgeois, d'artisans et d'étudiants de l'université Charles a constitué à l'époque le noyau des défenseurs de la ville. La colonne est devenue une dominante de la place ainsi qu'un lieu de prière et de piété. Elle a servi également à mesurer le temps car le méridien de Prague indiqué au sol suivait son ombre. L'auteur de la colonne, le sculpteur baroque Jiří Bendl, s'est inspiré de la première colonne de ce genre au nord des Alpes, la Marienne seule élevée en 1638 à Munich. En tant qu'une des premières constructions baroques à Prague, la colonne a été abattue le 3 novembre 1918 par un groupe d'anarchistes qui l'a considérée comme un symbole du pouvoir des Habsbourg et de la défaite des États tchèques protestants face à la Ligue catholique à la Montagne Blanche. L'association pour le renouveau de la colonne qui a vu le jour en 1990 a confié les travaux sur le renouveau du monument à l'atelier de sculpteurs et de tailleurs de pierre de Petre Vanja. Aujourd'hui, la copie de la colonne est près d'être achevée. Sans aucune certitude quant au retour de la colonne sur son lieu d'origine, le sculpteur Petre Vanja a toutefois travaillé gratuitement pendant 15 ans sur son œuvre.
Poslední, co zbývá ještě, je ten základ. Což je vlastně
La dernière chose qui reste à terminer, ce sont les fondations de la colonne formées par un tas de pierres. C'est exactement 24 pierres taillées.
Hromada kamene, to je 24 kamenů.
Depuis 1996, où il a commencé les travaux, Petr Vania a terminé la balustrade, l'escalier et la tige de la colonne de 6 mètres de hauteur pour laquelle il a fallu importer le matériau convenable du grès extrait d'une carrière près de New Delhi en Inde. Le bateau des frères Forman a aidé à transporter le bloc à Prague. En attendant l'assemblage de la colonne, la tige a été déposée dans le jardin du couvent des Boromen à Petchin. La première partie terminée, la statue de la Vierge Immaculée, provisoirement installée près de Notre-Dame de Tine, a été consacrée le 3 novembre 2003 par le cardinal Miloslav Vlk. Petr Vania se félicite de ce que quelques fragments originaux de la colonne déboulonnée se soient conservés au musée lapidaire de Prague.
Podle tohohle odlitku pak jsem sekal tu kopii, která dneska je.
Du torse, j'ai pris des moulages en plâtre pour en faire une copie en grès de la statue de la Vierge qui est à voir près de Notre-Dame de
Tine.
Depuis le déboulonnage de la colonne mariale en 1918, seule la statue de Jan Hus orne la place de la vieille ville. Sculptée par Ladislav Chalon en 1915, dans le style Art Nouveau, il a toujours été considéré comme un symbole d'indépendance nationale et de réforme protestante. Il n'est donc guère étonnant que des opposants au retour de la colonne mariale sur cette même place commencent à parler d'un combat des symboles. Eugen Kukla, de l'Association pour le renouveau du monument, le refuse. Pour lui, la colonne a toute sa place à cet endroit. Elle s'y trouvait bien avant la statue de Jan Hus.
Il ne s'agit évidemment pas de choisir entre les deux, car le monument de Jan Hus a été élevé en 1915 et la colonne a été déboulonnée en 1918.
Pour Petr Vania, la place de la vieille ville n'est pas complète sans la colonne. Et le sculpteur Ladislav Chalon en a tenu compte en créant le monument Jan Hus. Il a divisé la masse de la place de manière horizontale, en contraste justement avec le plan vertical de la colonne, pour que les deux s'équilibrent, ce qui aujourd'hui fait défaut.
La colonne mariale est une verticale claire, alors que le monument Jan Hus est une horizontale. Les deux principes s'appuient l'un sur l'autre en se complétant et en fournissant une interprétation logique de tout cet espace.
Les deux symboles de l'histoire tchèque ont coexisté pendant 3 ans, côte à côte. L'écrivain Ferdinand Perotka écrit que quelques jours après la création de la Tchécoslovaquie, le 28 octobre 1918, un anarchiste du quartier pragois de Žižkov, Franta Sauer, a fait venir devant la colonne un véhicule de sapeurs-pompiers. Attaché à ce dernier par des câbles, la colonne avec en haut la statue de la Vierge est tombée à terre, éclatée en plusieurs morceaux. Des habitants des maisons alentours ont essayé en vain d'empêcher la destruction du monument baroque. Parmi eux, l'historien Václav Wilhelm Štěch ou encore le comte Václav Kounic. L'Église catholique a réagi au déboulonnage de la colonne mariale en faisant construire 12 nouvelles églises dans les nouveaux quartiers de Prague, comme les 12 étoiles qui couronnent la tête de la Vierge. En 1937, la première d'entre elles, l'église Notre-Dame de la Paix à Prague-Lhotka, a été terminée. Quel est le regard porté aujourd'hui par l'Église catholique sur le retour de la colonne mariale à la place de la vieille ville? Le cardinal Dominik Duka s'est exprimé sur les ondes de la radio tchèque.
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire imaginent que la colonne mariale a été abattue en signe de protestation contre l'époque des ténèbres, contre l'Église catholique. Ceux plus informés savent bien que la colonne Maria n'a jamais représenté la victoire des catholiques après la montagne blanche, qu'elle a été érigée plus de 30 ans après cette bataille en remerciement pour la défense de Prague contre les Suédois. Pendant des années, elle s'est dressée à cet endroit, formant un contrepoids à une communauté paisible avec le monument voisin dédié à Jan Hus. L'intention de la mairie de Prague de faire revenir la colonne sur la place de la vieille ville n'est pas un acte de réhabilitation de l'Église catholique, mais un acte culturel. La colonne est inséparable de cette place. En liquidant les monuments, on ne peut pas effacer l'histoire.
Pomníky za nic nemohou. Jejich likvidací nevymažeme historii.
Après 20 années d'opposition, Bohuslav Svoboda est le premier maire de Prague à avoir donné son feu vert au retour de la colonne mariale à son emplacement d'origine. La mairie se dit également favorable à l'installation d'une réplique de la fontaine Renaissance Crotine qui ornait depuis 1591 la vieille ville. Enfin, la reconstruction de la maison baroque dite de Crène, fermant la rue de Paris, est également envisagée.
C'était donc Jelka Gisiblova qui vous a parlé du retour prévu de la colonne mariale sur la place de la vieille ville de Prague. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague et vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes en audio et en texte sur www.radio.cz/fr.